Vous écoutez, on lit pour vous.
Espérance de vie, approche-t-on d'une limite? Un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge. Jusqu'à quel âge un être humain peut-il espérer vivre? La croissance extrêmement rapide de l'espérance de vie au XXe siècle permettait de rêver. Le ralentissement récent de cette croissance signale qu'on approche peut-être d'une date de péremption. Alors que les gens nés au milieu du 19e siècle pouvaient espérer vivre entre 20 et 50 ans, ceux nés en 1990 pourraient apparemment viser entre 50 et 70 ans. Au moment où on avait fait cette estimation, plusieurs extrapolaient qu'on devrait s'attendre à voir une explosion des centenaires, voire des super-centenaires, 110 ans et plus. Ralentissement observé. Or, une analyse parue en octobre 2024 dans la revue Nature Aging remet, littéralement, les pendules à l'heure. Observant les données des décès de 1990 à 2019 dans les 9 pays où l'espérance de vie est la plus élevée, incluant la France et le Japon, en plus des États-Unis, les chercheurs concluent qu'en moyenne, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 6 ans et demi pendant cette période. Ce qui peut sembler beaucoup, mais montre un ralentissement par rapport aux 3 années par décennie de croissance du siècle précédent. Qui plus est, le ralentissement était plus prononcé pendant la période 2010-2019, particulièrement aux États-Unis. En 2019, l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis était de 78,8 ans. À Hong Kong, elle était de 85 ans. L'année 2019 a été choisie parce que la pandémie venait ensuite fausser les données. Il est possible que dans le cas des États-Unis, la crise des opioïdes soit ce qui ait fait baisser la moyenne, mais si on se fie aux autres pays riches, la tendance serait néanmoins généralisée. Si cette tendance devait se confirmer dans l'avenir, écrivent les chercheurs, l'espérance de vie moyenne pourrait atteindre un plateau d'environ 84 ans pour les hommes et de 90 ans pour les femmes. Le nombre de centenaires serait donc moins élevé que ce que les plus optimistes prévoyaient il y a 30 ans. Certains de ces mêmes chercheurs avaient publié une étude en 1990 où ils spéculaient déjà sur l'existence d'une limite biologique à l'espérance de vie. L'auteur principal, l'épidémiologiste de l'Université de l'Illinois, Jan Olshansky, a même accepté en 2000 un pari avec le biologiste de l'Université de l'Alabama, Stephen Austad. Celui-ci a misé, à l'époque, $150 sur le fait que le premier humain à atteindre l'âge de 150 ans serait déjà né. Olshansky rejette l'idée. La somme a été déposée dans un fonds d'investissement et sera vraisemblablement remise à un des descendants des deux hommes qui sont aujourd'hui septuagénaires. On savait que les progrès rapides de la médecine dans le dernier siècle et demi étaient directement responsables de cette croissance. Mais l'inconnu était de nature biologique. Y a-t-il une limite au vieillissement? Pour l'instant, la plupart des chercheurs ne sont pas prêts à baisser les bras. Les investissements dans les médicaments et les traitements pour ralentir le vieillissement ont encore de beaux jours devant eux. Mais si cette tendance au ralentissement de la croissance devait se poursuivre pendant une ou deux autres décennies, l'expression « obsolescence programmée » prendra tôt ou tard un nouveau sens. C'était « Espérance de vie, approche-t-on d'une limite ?» un texte de l'agence Science Presse paru dans Bel Âge.
L'actualité verte de la semaine. Un texte de Sarah Champagne, paru le 9 décembre 2024 dans La Presse. Quiz. Quel pays taxe désormais les pets et les rots des animaux de ferme? La Suisse? Le Danemark? Les États-Unis? Une taxe climatique unique au monde vient d'entrer en vigueur au Danemark. les éleveurs devront payer l'équivalent de près de 50 dollars canadiens pour chaque tonne d'équivalent de dioxyde de carbone produit par leur bétail. Dans ce pays nordique, il y a 5 fois plus de porcs et de vaches que d'habitants. Ces animaux produisent de grandes quantités de méthane, CH4, l'un des responsables du réchauffement climatique. Avec cette loi, le gouvernement danois veut diminuer la pollution agricole tout en ramenant des terres à l'état naturel. L'Université de Sherbrooke gagne l'Amazonie. Des chercheurs de l'Université de Sherbrooke font partie de l'équipe gagnante du concours X-Prize Rainforest, visant à répertorier, en moins de 72 heures, le plus grand nombre d'espèces dans la forêt amazonienne. Grâce à un drone chargé de larguer des balises, les chercheurs en génie robotique ont cartographié les oiseaux à partir de leurs champs. Des insectes ont été photographiés, des arbres répertoriés, des échantillons d'ADN ont même été prélevés sur des branches. Au total, 100 hectares de forêt étaient dans la ligne de mire. Une 60aine de scientifiques de 7 universités réparties dans 7 pays, dont Sherbrooke, ont remporté la finale. Le prix partagé? 5 millions de dollars américains, soit 7 millions canadiens. Chute brutale des niveaux d'eau douce planétaire. De récentes images satellites de la NASA révèlent une chute brutale des niveaux d'eau douce dans le monde. Selon l'analyse, la quantité totale d'eau douce de notre planète a chuté d'un coup à partir du mois de mai 2014 et elle n'est pas remontée depuis. D'après les scientifiques qui ont publié leur découverte dans Surveys in Geophysics, cette stagnation pourrait indiquer que les continents sont en phase persistante de sécheresse. La diminution des réserves mondiales d'eau douce a commencé par une sécheresse massive dans le nord du Brésil, puis s'est poursuivie par une série de sécheresses majeures en Australasie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Les batteries au sel, l'avenir? L'avenir résiderait dans les batteries au sel. En Caroline du Nord, l'entreprise Natron va multiplier sa production en construisant une usine de sodium-ion. L'entreprise positionne son produit comme une solution de rechange au lithium. En Suède, l'entreprise baptisée Altris se prépare à commercialiser un matériau sodium-ion pour les cellules de batterie. À ce jour, les batteries au sel ne sont pas aussi performantes en durée que celles au lithium, mais dans un contexte où le lithium est appelé à se raréfier, le sodium-ion va gagner le marché, a déclaré Imre Giuk, directeur de la recherche sur le stockage d'énergie au département américain de l'énergie lors d'un récent webinaire. Congé climatique en Espagne. L'Espagne emboîte le pas à d'autres pays en instaurant un congé climatique payé après les coulées de boue meurtrières. 4 jours de congé seront accordés aux travailleurs en cas d'urgence météorologique. L'objectif? Protéger le droit de s'absenter, voire d'évacuer en cas de catastrophe. De nombreux employeurs ont été montrés du doigt pour avoir ordonné à leurs salariés de rester en poste lorsque l'alerte rouge a été lancée le 29 octobre 2024 par l'agence météorologique du pays. Des alertes téléphoniques auraient été envoyées trop tard. Le but ultime est de sauver des vies. Les inondations ont entraîné plus de 220 morts. C'était l'actualité verte de la semaine, un texte de Sarah Champagne, paru le 9 décembre 2024 dans La Presse.
Histoire des sciences, Oppenheimer, le physicien éclipsé par la bombe, un texte de Ivan Kiryov, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir. avant de prendre la tête du projet Manhattan, Robert Oppenheimer était un chercheur et un enseignant réputé et respecté. Il contribua notamment à deux découvertes majeures, le positon et les trous noirs, sans toutefois en récolter les lauriers. Celui qui fut l'un des scientifiques les plus célèbres de l'après-guerre est revenu sur le devant de la scène en 2023 à la faveur du monumental biopic que lui a consacré le réalisateur Christopher Nolan. Mais c'est encore comme le père de la bombe atomique que l'on présente J. Robert Oppenheimer, directeur scientifique du projet Manhattan, qui a supervisé la construction des premières armes de destruction massive de l'histoire. Ce raccourci commode égratigne déjà la réalité. Oppenheimer n'a pas inventé la bombe A. Il n'a pas découvert le phénomène de fission nucléaire sur lequel elle est fondée, ni mis au point ses mécanismes de détonation. À partir de sa prise de fonction à la tête du site Y, nom de code de la ville laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique, États-Unis, où le gadget, ainsi qu'avait été baptisée la bombe, fut élaboré dans le plus grand secret, il est devenu un administrateur efficace, le leader et le catalyseur de la plus extraordinaire concentration de cerveaux scientifiques jamais constituée. Or, on oublie souvent qu'avant de devenir le chef de ces savants d'élite, Robert Oppenheimer était lui-même un physicien brillant, chercheur et enseignant réputé et respecté. Il avait notamment contribué à importer aux États-Unis la révolution de la mécanique quantique, dont il avait partagé en Europe l'émergence et le triomphe. Pur théoricien, il avait suivi l'enseignement de Max Born à Göttingen, Allemagne, de Wolfgang Pauli à Zurich, Suisse, et côtoyé de jeunes collègues géniaux comme Paul Dirac ou Werner Heisenberg, ainsi que celui qui fut l'idole de toute sa vie, Niels Bohr. Dès son retour aux États-Unis, deux des plus grandes universités californiennes, Caltech et Berkeley, se partagent l'enseignement d'Oppy, ainsi que l'appelaient ses amis et ses étudiants préférés. Adulé par les jeunes doctorants qu'il prend sous son aile, il co-signe avec plusieurs d'entre eux de nombreux articles scientifiques sur des sujets variés. Cette période californienne sera pour lui la plus féconde sur le plan de la recherche. Après avoir apporté sa pierre à l'édifice de la théorie quantique, il va l'appliquer à des domaines aussi divers que prometteurs. Sans pouvoir détailler ici ses principales contributions à la physique du XXe siècle, nous évoquerons deux découvertes majeures auxquelles il a contribué sans en récolter les lauriers, le positon et les trous noirs. Il développe, dès 1925, une obsession pour l'électrodynamique quantique. Depuis sa rencontre avec Paul Dirac à Cambridge en 1925, Oppenheimer avait été fasciné par son jeune collègue, physicien de génie et mathématicien virtuose. Il avait surtout développé une véritable obsession pour une théorie que Dirac avait élaborée en 1928, l'électrodynamique quantique, abrégée en QED en anglais, application de la mécanique quantique au mouvement des électrons et aux phénomènes électromagnétiques. S'il était ébloui par cette première tentative visant à concilier physique quantique et théorie de la relativité, les électrons se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, il avait très vite acquis la conviction que quelque chose clochait dans ces équations. Devenu professeur, il s'était de nouveau penché sur le sujet avec Milton Plessett, un de ses protégés. Publié en 1933 avec Plessett, sur la production de l'électron positif, inaugure une série d'articles dans lesquels Oppenheimer en collaboration avec plusieurs de ses étudiants, met au jour les failles de la théorie de Dirac. Il montre notamment qu'elle impliquerait l'existence d'une particule de la même masse que l'électron, mais qui serait chargée positivement. Or, Oppenheimer y voit une preuve par l'absurde des limites de la QED. Il s'avéra qu'il avait à la fois tort et raison. La théorie de Dirac devait bien être améliorée. Ce travail de longue haleine, baptisé « Renormalisation de la QED », sera mené après la guerre par deux jeunes physiciens avec lesquels Oppenheimer avait travaillé, Julian Schwinger et Richard Feynman, et parallèlement par le japonais Shinichiro Tomonaga. Ces travaux vaudront à ces trois chercheurs de partager en 1965 le prix Nobel de physique. Mais Oppenheimer se trompait sur l'existence de l'électron positif qui fut rebaptisé positron puis positon. Détecté fortuitement en 1932 par Carl Anderson dans les rayons cosmiques, cette nouvelle particule dévoila l'existence de l'antimatière, sorte de double en négatif de la matière connue jusqu'alors. Ne croyant pas à son existence, Oppenheimer passa à côté de cette découverte pour laquelle Anderson reçut le prix Nobel de physique en 1936. C'est à la fin de ces années 1930, si fructueuses en découvertes, qu'Oppenheimer aborda un des thèmes de recherche les plus intéressants, bien qu'il fallût encore des années pour que la communauté scientifique en mesure l'importance. Il s'agissait de sa première incursion dans un domaine alors nouveau pour lui, l'astrophysique. Il se pencha sur les transformations subies par les étoiles massives en fin de vie, lorsqu'elles ont épuisé leurs réserves de combustible, l'hydrogène, et qu'elles se ramassent sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravité. Dans les deux premiers d'une série de trois articles sur le sujet, publiés entre 1938 et 1939, il étudiait ce qu'on pensait être alors l'ultime stade de cette évolution, les étoiles à neutrons. Mais c'est surtout le dernier volet de ce triptyque qui suscite aujourd'hui encore l'admiration des physiciens et qui aurait sans doute pu lui valoir le Nobel s'il avait vécu assez longtemps pour jouir de cette reconnaissance. Car le phénomène étrange et fascinant qu'il y décrit en compagnie d'Hartland Snyder est depuis passé du stade de la spéculation théorique à celui de star de la physique. Poussant la densification de la masse stellaire au-delà de celle des étoiles à neutrons, cette singularité où le temps s'étire à l'infini et qui attire à elle jusqu'à la lumière, recevra quelques années plus tard un nom inspiré par une geôle de Calcutta en Inde dont on disait que les détenus ne sortaient jamais vivants, trou noir. Le 1er septembre 1939, la physique cède la place à l'histoire. En appliquant les équations de la relativité générale d'Einstein à ce cas limite du bestiaire cosmique, Oppenheimer et Snyder venaient, sans le savoir, d'ouvrir un des chapitres les plus glorieux de la physique du XXe siècle. Mais leur travail, qui eut déjà à l'époque un retentissement limité, on n'y voyait qu'un brillant exercice mathématique sans en soupçonner les implications dans la compréhension de l'univers, fut de plus éclipsé par un événement aux répercussions immédiates et dramatiques. Le jour même de la parution de leur article, le 1er septembre 1939, les journaux du monde entier annonçaient l'invasion de la Pologne par les troupes du Troisième Reich, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Pour Oppenheimer, la physique venait de céder la place à l'histoire, qui allait trois ans plus tard sceller à jamais son destin en le propulsant à la tête d'un projet scientifico-militaire sans précédent. il ne revint jamais tout à fait à la recherche civile. Après la guerre, il prit la tête de l'Institut d'études avancées de Princeton, États-Unis, qui accueillait, entre autres, Albert Einstein. Il y joua, certes, un rôle important dans plusieurs avancées majeures en physique, mais plus comme un catalyseur et un organisateur que comme un chercheur à part entière. Son implication dans la politique nucléaire américaine, puis la révocation de son habilitation de sécurité en 1954, en pleine chasse aux sorcières macartistes, contribuèrent à l'écarter encore davantage du monde de la recherche théorique. Jouissant toujours d'une grande célébrité, il se consacra pendant les dernières années de sa vie à la vulgarisation et à la diffusion des sciences, ainsi qu'à la philosophie. Il est vrai que la littérature et les humanités l'avaient toujours passionné, presque autant que la physique. C'était Histoire des sciences, Oppenheimer, le physicien éclipsé par la bombe, un texte de Ivan Kiryov, paru le 21 mars 2024 dans Science et Avenir.
L'inhumaine banalité des fausses couches. Un texte de Justine Monette Tremblay, paru le 23 avril 2024 dans La Presse. Justine Monette Tremblay est candidate au doctorat en droit à l'Université d'Ottawa. En janvier 2024, j'ai vécu une fausse couche après 5 semaines de grossesse. J'ai découvert avec effroi la banalisation du système de santé pour cette condition, ce qui m'a donné l'impression non seulement que cela n'avait pas d'importance, mais aussi que je n'avais pas ma place aux urgences. L'enchaînement des événements aura montré que cette invalidation traumatisante de ma souffrance aurait pu me coûter la vie. Je me suis présentée aux urgences un lundi soir vers 18h sur recommandation d'InfoSanté. Ayant déjà vécu une grossesse à terme pour laquelle j'ai obtenu un suivi médical de qualité, j'ai cru que j'aurais droit à une prise en charge équivalente. La comparaison entre les deux traitements a été d'autant plus cruelle m'envoyant le message que je ne méritais pas d'être prise en charge. Avant 12 semaines de grossesse, le personnel médical fait peu de cas d'une fausse couche. Une grossesse sur 6 se termine par une fausse couche, dont la majorité a lieu durant les 12 premières semaines de grossesse. Autrement dit, la fausse couche est un phénomène extrêmement commun chez les femmes, mais jamais un événement banal, peu importe le nombre de semaines. Malgré la grande détresse émotionnelle dans laquelle j'étais, aucune mesure particulière n'a été mise en place pour m'accompagner. Vers 2h30 du matin, après 8h30 d'attente, seule à pleurer, sur une chaise inconfortable, dans une salle dont l'éclairage empêche de fermer les yeux pour somnoler, et à faire des allers-retours aux toilettes pour changer les serviettes hygiéniques imbibées de sang, j'ai finalement vu un médecin. C'est bien une fausse couche. Il n'y a rien à faire. Aucune intervention médicale n'aurait pu arrêter ma fausse couche. Mais le fait qu'on ne puisse pas l'empêcher ne signifie pas qu'un accompagnement spécialisé n'est pas nécessaire. Seule dans la salle d'attente, je me répétais « On me traite ainsi parce que j'ai échoué à franchir les 12 semaines nécessaires à un traitement humain. » Une promesse dangereuse. Cette banalisation de la souffrance des femmes n'est pas sans conséquence. Je me suis juré que je ne retournerai jamais aux urgences dans une situation similaire. C'est cette promesse qui a failli me coûter la vie. En mars 2024, après 4 jours de douleurs inouïes au bas-ventre, j'ai finalement dû retourner aux urgences à contre-cœur. Le matin même, j'ai douté. « Et si on ne me croit pas ?» écrivais-je à mes amis. Je pensais alors vivre des douleurs normales d'ovulation, dont les tests étaient étrangement positifs depuis trop longtemps. Les tests de grossesse, eux, étaient négatifs. J'y suis finalement allée. En arrivant, j'ai indiqué que les douleurs venaient de mon système reproductif. L'infirmier du triage a rapidement écarté ce que je lui disais, m'indiquant qu'il s'agissait probablement de pierres aux reins, me donnant par le fait même une priorité en raison de cette douleur qu'il avait visiblement déjà connue. L'urgentologue a également écarté mes impressions, croyant plutôt à une crise d'appendicite. 5 heures après mon arrivée aux urgences, ma trompe de Fallope explosait, causant une douleur tellement forte que j'en ai perdu conscience, ainsi que le début d'une hémorragie interne. Il s'agissait en fait d'une grossesse extra-utérine, soit une grossesse durant laquelle l'embryon se développe à l'extérieur de l'utérus. Je n'ose pas penser à ce qui se serait passé si je n'étais pas allée à l'hôpital avant le début de l'hémorragie. On peut se demander si un suivi plus adéquat de ma première fausse couche n'aurait pas pu prévenir cette possible complication qui m'aura coûté une de mes trompes. Et même s'il s'agissait d'une nouvelle grossesse, comment me suis-je rendue au point où, tellement traumatisée par mon expérience de fausse couche déshumanisante, j'ai choisi d'ignorer ces signaux alarmants qui auraient dû me conduire aux urgences bien avant le point de rupture? Mon histoire vient s'ajouter à celle de milliers de femmes dont la prise en charge d'une fausse couche a été traumatisante et déshumanisante. Certains hôpitaux ont mis en place un protocole pour les saignements avant 12 semaines qui vise, entre autres, une prise en charge plus humaine de cette situation si fréquente. Étendre ce protocole à tous les hôpitaux serait déjà un pas dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, il faut en finir avec cette banalisation de la souffrance des femmes qui nous incite à croire qu'elle ne vaut pas une prise en charge ou un déplacement aux urgences. C'était « L'inhumaine banalité des fausses couches », un texte de Justine Monette Tremblay, paru le 23 avril 2024 dans La Presse.